Au sommaire de cette édition, l'hommage dans tout le pays rendu cet après-midi à Samuel Paty, décapité avant-hier, Samuel Paty, ainsi qu'à tous les enseignants sous le choc. La parole à livrer pour penser les âmes en proie à la terreur, Océane Théard a sollicité Pauline Puanchet, psychologue clinicienne. La riposte a charpenté après ce qu'il convient d'appeler un cyberengrenage et protégé des professeurs soumis à des menaces indirectes, comme ce fut le cas au collège du Bois d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine, explication d'Adrien Paluet. La trêve une fois de plus rompue au Haut-Karabakh, correspondance d'Yerevan de Claude Brouillot. Enfin, à l'affiche de la face cachée du globe, signée Nabila Hamel, quelles évolutions en 40 ans d'humanitaire ? Sans attendre, faire bloc pour affronter ensemble la terreur qui envahit les esprits après chaque acte terroriste. Un enseignant est mort décapité parce qu'il exerçait son métier devant son établissement. Ce dimanche, rassemblement et manifestation pour rendre hommage à Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie qui, depuis des années, utilisait une caricature du prophète Mahomet pour aborder des notions fondamentales, la liberté d'expression, la laïcité. Nombre d'associations ont appelé à manifester cet après-midi. SOS Racisme en fait partie, son président Dominique Sopo.
Le travail des enseignants est un travail qui peut être confronté évidemment à des difficultés, à des contestations, même si les atteintes à la laïcité semblent plutôt stables sur les dernières années. Je pense que pour que les conditions d'exercice de l'enseignement soient plus sereines, il faut qu'il y ait une cohésion très forte de l'ensemble de la communauté éducative autour des pédagogies, autour du contenu des enseignements, et encore une fois, de ne pas se laisser impressionner par ceux qui beuglent. Ceux qui beuglent, si on recule devant eux, ils ne feront que beugler plus fort. Et c'est aussi par ce type de démonstration qu'il faut montrer que nous en sommes conscients. Mais pas par des démonstrations ponctuelles, par des démonstrations constantes, par des démonstrations permanentes, qu'il n'y a pas de place à la terreur, qu'il n'y a pas de place à des remises en cause du contenu des enseignements. Les enseignants sont là pour former à l'esprit critique, pour faire en sorte que les jeunes puissent décrypter le monde, apprendre à s'épanouir, à aimer la vie. C'est ça un enseignant. Et qu'il n'y a pas de possibilité, qu'il n'y ait pas de fermeté dans notre pays sur cette fonction de l'enseignant qui est une fonction essentielle à l'épanouissement d'une société.
L'Association des maires de France a également appelé toutes les communes à rendre hommage à la victime avec en guise de fil d'Ariane sur le fronton des mairies, hashtag je suis enseignant. Quelle parole articuler pour ne pas laisser les âmes être envahies par la peur ? Aider celles des enfants, des parents, des enseignants confrontés à un crime atroce à verbaliser autant que faire se peut plutôt que de rester sans voix. Océane Théard a sollicité Pauline Puanchet, psychologue clinicienne à Paris.
Il me semble que quand on se retrouve face à une scène d'une extrême brutalité, d'une extrême violente comme celle-ci, la seule possibilité de faire face est de remettre des mots, ce qui va permettre une mise à distance de cette brutalité crue, qui fait vraiment effraction dans notre réalité. La seule possibilité de l'intégrer à sa vie psychique, c'est d'en parler. J'aurais justement permis à ces collégiens de prendre la parole, eux, de pouvoir exprimer leurs ressentis, de pouvoir exprimer leur imaginaire par rapport à tout ce qui s'est passé, pour ensuite que l'adulte puisse répondre, remettre les choses un petit peu dans l'ordre, soit pour les collégiens ou les parents. S'engager dans un groupe de parole peut permettre déjà de se sentir moins seul et de trouver un écho à ces ressentis du moment. On les accompagne en leur permettant de mettre un peu à distance ce qui s'est passé. Donc, dans un premier temps, les écouter. Dans un deuxième temps, leur proposer des mots pour pouvoir mettre à distance leurs émotions. Et dans un troisième temps, effectivement, leur permettre de se rassurer ou de se réaffirmer et de les accompagner à se sentir toujours légitimes dans ce positionnement.
Une autre urgence, réfléchir sans tarder à une stratégie de la riposte. Ce sont les termes du Premier ministre Jean Castex. Riposte à ces cyberengrenages qui laissent tout loisir à des criminels d'enrégimenter les uns les autres et de les conduire à tuer un enseignant après avoir rendu public sur Internet une polémique dont se repaissent les réseaux sociaux. Bonjour Adrien Paluet.
Bonjour.
Adrien, il est question, et c'est le propos d'ailleurs tenu ce matin par le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, Laurent Nunez. Il est question de menaces indirectes.
Oui, par menaces indirectes, Laurent Nunez fait référence à ces vidéos postées sur les réseaux sociaux par un parent d'élève. Il se plaint du travail du professeur d'histoire-géographie qui a montré les caricatures de Mahomet à ses élèves. On écoute tout de suite Laurent Nunez, invité ce matin de France Info.
Dans les vidéos qui ont été diffusées, vous n'aviez pas de menaces directes. J'insiste bien, de menaces directes contre l'enseignant qui justifierait une intervention immédiate. Même si je concède tout à fait que le fait de rendre publique la polémique et à un moment donné, et c'est ce qu'a fait d'ailleurs le parent d'élève en question, comme l'a rappelé encore une fois le procureur national antiterroriste, le fait de rendre publique la polémique et de livrer en pâture aux réseaux sociaux le nom de l'enseignant constituait évidemment une menace indirecte.
Donc la question est de savoir à quel point ces vidéos postées sur les réseaux sociaux ont eu un effet sur le passage à l'acte. Claude Moniquet est ancien membre de la DGSE et co-directeur de l'ESISC, un centre de recherche basé à Bruxelles, et il voit au moins deux rôles aux réseaux sociaux dans ce drame.
D'abord, il y a eu un rôle d'incitation qui est un rôle fort. C'est la médiatisation de la fameuse affaire de la leçon sur les caricatures et du fait que Samuel Paty avait montré des caricatures pendant les cours. Donc là, on a une incitation. On a une publicité qui est donnée à l'acte, qui tout d'un coup fait que quelque chose qui se passe dans une classe devant une quinzaine, une vingtaine d'élèves devient un phénomène qui va faire boule de neige sur les réseaux sociaux, qui va être repris sur les sites de certaines mosquées, sur des sites islamistes, sur des sites encore plus radicaux, et qui va donc inonder toute une sphère de gens qui se nourrissent, qui s'abreuvent à ces réseaux. Et là, on peut avoir eu un rôle incitatif sur l'auteur des faits. La deuxième chose, bien sûr, mais ça c'est l'enquête qui va le révéler, c'est savoir si l'auteur a été ou n'a pas été radicalisé par ailleurs, et si cette radicalisation s'est ou ne s'est pas produite sur les réseaux sociaux. En général, ce qu'on constate quand même sur les djihadistes isolés, depuis maintenant des années, depuis Mohamed Merah par exemple, c'est qu'il y a une forte implication des réseaux sociaux dans la construction de la personnalité radicale et dans le substrat d'information qui va lui servir de support à un moment et qui va parfois l'amener à passer à l'acte.
Un vrai problème puisque malheureusement, la radicalisation et les passages à l'acte sont extrêmement difficiles à détecter sur les réseaux sociaux.
Merci à vous, Adrien Palluet. Le chef de l'État réunira ce soir à 18h un conseil de défense et un hommage national sera rendu mercredi, en coordination avec la famille de l'enseignant assassiné. Dans l'actualité internationale, la guerre des communiqués au Haut-Karabakh, faute d'avoir pu faire taire les armes, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, une fois de plus, s'accusent mutuellement d'avoir rompu la dernière trêve en date. Claude Brouillot nous appelle d'Erevan.
Comme il y a une semaine, au nord et au sud de la ligne de front, les autorités arméniennes pointent du doigt des attaques azerbaïdjanaises qui se seraient produites quelques heures seulement après le début du cessez-le-feu. Même accusation dans le camp d'en face, Bakou dénonçant ses ennemis pour ne pas avoir respecté l'arrêt des combats. Un constat d'échec à nouveau pour les Occidentaux, USA et France en tête, ainsi que pour la Russie, qui ne parviennent pas à convaincre les deux camps du respect indispensable d'une trêve humanitaire. La dernière nuit et ce matin, en revanche, la capitale arménienne du Haut-Karabakh a pu bénéficier d'un peu de répit, mais cette pause pourrait être de courte durée, l'Azerbaïdjan ayant annoncé déjà vouloir venger les 13 victimes civiles de Ganja, parmi lesquelles des enfants, tués dans des bombardements arméniens sur la deuxième ville du pays ennemi, alors que le conflit dans le Haut-Karabakh entre dans sa quatrième semaine.
Un an après la fuite précipitée d'Evo Morales pour des soupçons de fraude électorale, les Boliviens sont amenés ce dimanche à désigner un nouveau président. C'est un pays divisé qui s'apprête à se rendre aux urnes. Par deux fois, le scrutin a été reporté à cause de la pandémie de Covid qui a durement frappé la population. 8500 morts pour une population totale de 11 millions d'habitants, laissant la Bolivie s'enfoncer dans une profonde crise sociale. Un autre scrutin présidentiel a au risque, cette fois en Guinée-Conakry, des élections précédées de violence à la suite des agissements du président sortant Alpha Condé qui a modifié la constitution afin de briguer un troisième mandat. Il est presque 12h39, vous écoutez le journal de France Culture et la face cachée du globe. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour Mathieu. Depuis le début du mois, la petite ville agricole de Sénécal, à 300 km de Johannesburg, est secouée par des tensions raciales. À l'origine de ces troubles, le meurtre d'un fermier blanc. Brundin Horner, 21 ans, a été retrouvé étranglé, attaché à un poteau. Des agriculteurs blancs ont manifesté leur colère après ce meurtre. Et ce drame, Claire Bargelès, a ravivé les divisions en Afrique du Sud, où deux suspects ont comparu devant la justice vendredi.
Les deux hommes de 32 et 44 ans, qui comptent déjà plusieurs arrestations, ont plaidé non coupables devant les magistrats. Mais c'est surtout à l'extérieur du tribunal que les tensions ont été exacerbées vendredi. Et un important déploiement des forces de l'ordre a permis d'éviter les violences. Deux camps se sont fait face, séparés par des barbelés. D'un côté, des groupes de défense des fermiers blancs, qui accusent le gouvernement de ne pas suffisamment les protéger. Et de l'autre, les combattants pour la liberté économique, le parti de gauche radicale de Julius Malema, en colère contre le monopole des richesses. La communauté blanche, qui représente moins de 10% de la population, possède près de 3/4 des terres. Le sujet reste sensible dans le pays et montre qu'un quart de siècle après la fin de l'apartheid, les cicatrices sont encore loin d'être refermées. Le président Cyril Ramaphosa avait d'ailleurs appelé au calme, craignant de voir se rallumer le brasier de la haine raciale. Il a de plus dénoncé la rhétorique de certains agriculteurs blancs qui qualifient la situation de génocide. Si une cinquantaine de fermiers ont été tués depuis 2019 selon la police et que la sécurité en zone rurale est un problème auquel les autorités promettent de remédier, ces violences ne représentent qu'une infime portion des quelques 20 000 meurtres commis chaque année dans un pays victime de sa très forte criminalité.
L'humanitaire à l'épreuve de crises plus difficiles et durables. C'est le constat que fait Pierre Brunet, vice-président de Solidarité internationale. Il est co-auteur d'un livre intitulé « Aider plus loin, 40 ans de crise, 40 ans d'action » et il explique à Christian Chéneau comment l'action humanitaire a évolué depuis que son organisation a fait ses premiers pas sur le terrain afghan.
Ça commence à l'occasion de l'invasion soviétique en Afghanistan en 1980. Un groupe de gens en France se mobilise et ils organisent des expéditions clandestines parce qu'ils vont passer clandestinement la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan qui s'appelleront les caravanes de l'espoir. Ils vont créer la première association qui s'appellera Solidarité Afghanistan. Après, il y en aura d'autres. Solidarité Liban, à l'occasion de la guerre civile au Liban. Solidarité Roumanie, à l'occasion de l'ouverture de la Roumanie après la chute de Ceausescu.
En 40 ans, entre l'Afghanistan, les années 80 et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans le métier d'humanitaire ?
Quand j'ai rejoint Solidarité en 94, il y avait à peu près 8 personnes au siège. Maintenant, il y a plus de 100 personnes au siège. Il y a plus de 2000 personnes sur le terrain, entre 18 et 20 missions en permanence. Ce sont des grosses machines, et je dis ça dans le bon sens du terme, qui développent de plus en plus d'aide humanitaire, avec de plus en plus de spécialistes, et en même temps des gens qui font carrière au sens noble du terme. C'est-à-dire qui se spécialisent, qui acquièrent des compétences, qui grimpent des échelons, qui prennent de plus en plus de responsabilités. Donc ça a changé. L'autre chose qui a changé, c'est que l'humanité qu'on pratiquait à cette époque-là était un humanitaire où finalement l'accès aux populations était souvent beaucoup plus simple et beaucoup plus sûr qu'aujourd'hui. Or, on a observé au cours des dernières décennies un rétrécissement extrêmement inquiétant de l'accès humanitaire aux populations, une remise en question de plus en plus grande, et parfois même par des États dont certains siègent au Conseil de sécurité de l'ONU, de la neutralité et de l'indépendance des ONG. On peut prendre l'exemple des lois antiterroristes qui contraignent de plus en plus la liberté d'action des ONG sur le terrain. Donc la neutralité, l'indépendance et la sécurité des travailleurs humanitaires est de plus en plus remise en question, de moins en moins respectée. On est passé, si vous voulez, d'un âge où les humanitaires étaient sanctuarisés d'une certaine manière parce que tout le monde les respectait et toutes les partis au conflit savaient qu'ils étaient humanitaires et qu'ils étaient à peu près neutres et qu'ils allaient à peu près aider tout le monde, à une époque où on n'était pas plus protégé que les autres, pas plus respecté les autres, jusqu'à une dernière époque aujourd'hui où maintenant les humanitaires sont en tant que tels recherchés, ciblés, attaqués.
Pour terminer, est-ce que les crises humanitaires, la nature de ces crises ont évolué aussi ?
Nous faisons face de plus en plus à des crises complexes et durables. Les crises humanitaires qui, à une époque, atteignaient leur pic d'intensité et passaient jusqu'à une forme de rétablissement et de résilience et de retour à peu près à la normale ont tendance à durer. Donc il faut que les ONG aient cette capacité à être à la fois des sprinteurs pour arriver vite en urgence et en même temps à être des coureurs de fond pour continuer cette action où parallèlement on fait de l'urgence, de la post-urgence et de la résilience parallèlement, simultanément, sur finalement un nombre d'années très long.
Retour à l'envoyeur, le Sri Lanka réexpédie 242 conteneurs de déchets biomédicaux dangereux au Royaume-Uni. Un tribunal sri-lankais a ordonné mercredi ce renvoi. Des poursuites seront également engagées contre l'importateur local qui a fait venir ces déchets. Plusieurs pays d'Asie, dont la Chine, les Philippines, l'Indonésie et la Malaisie, ont précédé le Sri Lanka en précisant qu'ils ne voulaient plus être la poubelle des pays riches développés. À dimanche prochain.
Merci à vous, Nabil Hamel. À dimanche prochain. Quelques mots de la météo de l'après-midi. Temps très nuageux ce dimanche sur le nord et le nord-est, avec un peu de pluie au nord de la Seine. Sur les Alpes du Sud, la Côte d'Azur et la Corse, le ciel mitigé. Température maximale comprise entre 11 et 22 degrés. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue à la technique Clément Daté.